n'est pas d'humeur à verser des pleurs. Hier sont les ouvrières, le jour un tailleur, le soir une guêtrière. Quand la mort vous susurre des serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance ni la chaleur ni les piqûres. Happy, apiculteur. Happy, apiculteur. Der en air, l'apiculteur se meurt. Trouve l'interrupteur. Une oasis, vous allez border des pagnoles. Que la splendeur n'effraie plus. Happy, happy culture. Happy, happy culture. Yeah.
fraîchissait le front avec des palmes. Et dont l'unique soin était d'approfondir le secret douloureux qui me faisait
la belle qui couchait avec le roi de Prusse, avec le roi de Prusse, à qui l'on a tondu le crâne rasibus, le crâne rasibus. Son penchant prononcé pour les ichlibediches, pour les ichlibediches, lui valut de porter quelques cheveux postiches, quelques cheveux postiche. Les braves sans culottes et les bonnets phrygiens, et les bonnets phrygiens ont livré sa crinière à un tondeur de chien, un tondeur de chien. J'aurais dû prendre un peu parti pour sa toison, parti pour sa toison. J'aurais dû dire un mot pour sauver son chignon, pour sauver son chignon. Mais je n'ai pas bougé du fond de ma torpeur, du fond de ma torpeur. Les coupeurs de cheveux en quatre m'ont fait peur, en quatre m'ont fait peur. Quand pire qu'une brosse, elle eût été tondue, elle eût été tondue. J'ai dit c'est malheureux, ces accroche-cœurs perdus, ces accroche-cœurs perdus. Et ramassant l'un d'eux qui traînait dans l'ornière, qui traînait dans l'ornière, je l'ai comme une fleur mise à ma boutonnière, mise à ma boutonnière. En me voyant partir, arborant mon toupet, arborant mon toupet, tous ces coupeurs de nattes m'ont pris pour un suspect, m'ont pris pour un suspect. Comme de la patrie, je ne mérite guère, je ne mérite guère. J'ai pas la croix d'honneur, j'ai pas la croix de guerre, j'ai pas la croix de guerre. Et je n'en souffre pas avec trop de rigueur, avec trop de rigueur. J'ai ma rosette à moi, c'est un accroche-cœur, c'est un accroche-cœur.
Madame Chirac Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai fait la fête. le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, c'est dessiné en mille facettes. Un cœur rouge, il y rue d'un gars, sans oublier rue de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain, c'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le teint, cela peut arriver au prophète. Monsieur le président, madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse une lunette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains avant que je perde la tête. La rage, la rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, excusez-nous du retard. Mon invité avait du mal à venir jusqu'au studio. Je vous le présente, maître Fiodor Ilov. Bonjour.
Bonjour.
Bien, vous êtes spécialiste du droit social et vous êtes, en résumé par le journal Le Monde, la bête noire des patrons. J'ai bon ?
C'est un titre flatteur que le journaliste du Monde a décidé... de mettre en tête de cet article qui est assez ancien, mais écoutez, oui, j'espère que depuis la parution de ce texte dans ce journal qui, là, pour le coup, n'est pas une bête noire du patronat, depuis que ce texte a été publié, j'espère que je n'ai pas failli à cette réputation, oui.
Bon, alors, vous avez prêté serment le 18 mars 2004 18 mars étant le jour de la Commune, bon, donc c'est
absolument
une date
absolument
révolutionnaire.
Oui.
Et depuis, vous, en droit social, vous avez enchaîné les dossiers les plus emblématiques. Mais avant cela, j'aimerais que vous expliquiez un tout petit peu votre parcours, notamment auprès de Maxime Grémetz.
Ouais, alors, oui, Maxime Grémetz...
Alors, le député communiste.
Il était incontournable à l'époque où il siégeait à l'Assemblée nationale en tant que député communiste, mais c'est vrai qu'il a assez brutalement interrompu son parcours politique. Et puis, bon, il faut malheureusement quand même reconnaître que le Parti communiste ne célèbre pas aujourd'hui les profils comme le sien, parce que Maxime Grémetz, c'était... Un praticien de la lutte des classes, quoi.
Tout à fait.
Et moi, je l'ai rencontré en tant que militant communiste. Je l'ai rencontré à l'époque où il était, d'une certaine façon, le représentant autoproclamé, mais à juste titre, hein, à raison, du groupe communiste à l'Assemblée nationale. À l'époque de la gauche plurielle.
Mmh. Bon.
Alors, la gauche plurielle, pour ceux qui s'en souviennent...
Oui, et les jeunes qui ne s'en souviennent pas, parce qu'ils étaient trop jeunes.
Ceux qui ne s'en souviennent pas, évidemment. C'était cette coalition des forces de gauche qui avait porté Lionel Jospin au pouvoir, enfin, en tout cas...
en tant que Premier ministre.
Il l'avait propulsé Premier ministre, et donc, évidemment, c'est dans le cadre de cette fonction de Premier ministre qu'il a ensuite tenté de se hisser à l'échelon juste au-dessus, mais mm-hmm. avec bon, le peu de succès qu'on connaît.
Oui.
Et, mais, bon, Maxime Grémetz, dans... la configuration de la gauche plurielle qui était présidée, entre guillemets, par Lionel Jospin, c'était celui qui systématiquement intervenait pour tenter de contraindre la majorité à l'Assemblée nationale de glisser à gauche. Sur l'ensemble des grands enjeux de l'époque, il y avait en permanence, hein, c'était absolument constant, une sorte d'agitation qui pouvait conduire éventuellement à ce que la réponse apportée à cet enjeu par la gauche plurielle soit une réponse de gauche, soit, alternativement, que la réponse apportée par cette même gauche plurielle soit une réponse de droite.
Mmh.
Voilà. Il y avait une confrontation assez systématique, et cette confrontation, elle était possible, en tout cas facialement, hein, elle était vue comme ça parce que, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, les socialistes avaient besoin des communistes pour gouverner.
Oui.
Voilà. Ça, c'est unique. Mmh. Voilà. Et pour, donc, la première fois dans le cadre d'un gouvernement de gauche, les communistes pouvaient essayer de faire usage de leur position de faiseur de majorité pour contraindre les socialistes à faire ce qu'ils n'aiment pas faire, à savoir une politique de gauche.
On est bien d'accord.
Alors, Maxime Grémetz, là-dedans, il avait ce savoir-faire de bagarreur hein, de la lutte des classes qui le conduisait à exploiter toute situation qui pouvait éventuellement amener un progrès. Y compris lorsque le rapport de force réel, structurel, n'était pas nécessairement le plus favorable. Qu'est-ce que je veux dire concrètement par là ? Il s'autoproclamait représentant d'une partie significative des députés communistes et il faisait croire, parce que parfois c'était pas absolument vrai, que dans l'hypothèse où un certain nombre de concessions n'étaient pas données par le gouvernement de Jospin, donc des concessions à la gauche, à ce que Maxime Grémetz prétendait être la ligne du groupe communiste à l'Assemblée nationale, alors il n'était pas certain que tel ou tel texte puisse passer le jour du vote. Et ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné parce que il y avait une incohérence, pour le dire, j'ai un peu hésité sur le mot, mais allez, disons-le, il y avait une incohérence profonde dans la ligne du groupe communiste à l'Assemblée nationale à l'époque. Robert Hue, qui était le président du groupe et qui est devenu aujourd'hui, je crois qu'il est même membre
du comité olympique.
Oui, du comité olympique, mais je me demande s'il n'est pas membre d'une organisation qui milite en faveur de d'Emmanuel Macron ou un truc comme ça. Bon,
oui,
peut-être.
Il est dans le sillage.
Oui, dans ce sillage-là. Bon, en tout cas, à l'époque, il était président du groupe communiste à l'Assemblée nationale et il n'avait absolument aucune autorité hein, sur ce qui se produisait à l'intérieur du groupe. Mmh. Et donc, il était possible pour Maxime Grémetz de jouer ce rôle en se proclamant à chaque fois que les circonstances le permettaient, représentant de facto d'une majorité des députés du groupe communiste qui exigeait, selon lui, que telle ou telle partie d'une réforme qui, évidemment, allait dans des orientations réformistes, voilà, de libéralisation, voilà, soit abandonnée, voire même qu'on exigeait que Jospin prenne un certain nombre de mesures qui allaient, là, pour le coup, vraiment dans le bon sens et qui étaient en contradiction avec l'immense majorité des réformes qu'il portait.
Alors, vous avez proposé des amendements à la loi de modernisation sociale en 2002. Est-ce que vous pouvez présenter cette loi ? Parce que les jeunes, quand on leur explique cette époque, ils nous prennent pour des dinosaures, à juste titre. Mais ça a été fondamental, cette loi.
Ah oui, elle a été absolument cruciale. Et elle est dans la manière dont elle a été débattue, hein. Elle est assez emblématique de ce que je viens de dire. Voilà. Parce que dans cette loi de modernisation sociale, il y avait énormément de modifications du Code du travail. Certains allaient franchement dans le bon sens, et d'autres allaient de façon tout à fait évidente dans le mauvais sens. Hein, il y avait, on va dire, à boire et à manger, mais quand même, hein, en creux, l'orientation générale de cette loi de modernisation sociale, c'était, bon, voilà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était une réorganisation des règles applicables au monde du travail par le social-libéralisme. Voilà,
oui.
C'était fondamentalement ça, la démarche. Et ce que nous, on a essayé de faire avec Maxime, c'était mettre en échec ce qu'on pouvait mettre en échec dans les dispositions qui allaient dans le mauvais sens, et d'ajouter un certain nombre de mesures qui, du fait du rapport de force que je décrivais tout à l'heure, pouvaient éventuellement passer. Et parmi, je prends juste une mesure qui, je crois, incarne un peu cette manière dont nous avons cherché à peser sur la loi de modernisation sociale, c'était le droit d'opposition.
Oui.
Que nous voulions que le comité d'entreprise, à l'époque, puisse exercer à l'encontre des licenciements économiques collectifs. Alors, il faut quand même... aujourd'hui, rétrospectivement, prendre la mesure de ce qu'on proposait à l'époque. On proposait à l'époque que les salariés aient un droit de veto.
Sur leur propre licenciement.
Sur des licenciements économiques non justifiés.
Tout à fait.
Voilà.
Ce qui est la moindre des choses.
Absolument. Absolument. Alors, c'est la moindre des choses. Moi, ça me semble être la moindre des choses. Mais aujourd'hui, on est à des années-lumière.
Oui. On va l'expliquer avec votre carrière.
On est à des années-lumière de ça. Et donc, on a réussi à faire passer, alors de façon extrêmement réduite, ça a été amputé, ça a été saboté, pourrait-on dire. Mais on a quand même réussi à intégrer dans le Code du travail un droit d'opposition au licenciement collectif qui était vidé de sa substance, mais qui faisait quand même son apparition, au moins formelle, dans le droit social. Et nous, ce qu'on espérait, c'est que le rapport de force dans le pays évolue de façon suffisamment favorable pour qu'on puisse remplir cette case nouvelle du Code du travail
avec
de la substance, avec quelque chose d'un peu sérieux. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas du tout produit. C'était une irruption inattendue dans le Code du travail. D'une démarche révolutionnaire et qui a été aussi éphémère que nos espoirs de voir cette brèche s'élargir.
Voilà. Bien. Maître Rilof, alors si je cite les clients que vous avez eus, les salariés de Goodyear, Conti, Faurecia, Samsonite, Trois Suisses, UPS, Flodor, Coca-Cola, etc. On va voir d'autres cas bien précis. Vous avez dit que vous investiguez avant de les défendre, pour mieux les défendre, et vous avez dit ceci dans votre livre « Qui a tué vos emplois ?»« En matière de capitalisme, c'est toujours pire que ce qu'on imaginait.
»
Vraiment ?
Évidemment.
On va commencer par un premier dossier.
Oui. Non, mais c'est toujours pire. Bien sûr que c'est toujours pire, parce que la réalité de l'exploitation, la réalité de la perfidie de ceux qui, pour se gaver encore davantage, décident de jeter autant de familles à la rue qu'il leur semble nécessaire. Hein. cette réalité-là, quand on y est confronté, et moi j'y suis quand même confronté presque quotidiennement, elle est pire que les mots qu'on met habituellement dessus. Oui.
Alors, mot règle globale. D'après l'article du 7 février 2024 de Dan Israël, ça a été l'un des pires cauchemars du président socialiste François Hollande. Donc, on est content. Et de ses gouvernements successifs. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de ce dossier? Il y a quand même eu d'abord, si mes souvenirs sont exacts, 2800 licenciements et ensuite 2150. Voilà. Est-ce que vous pouvez présenter à nos auditeurs comment ça s'est passé, Maury Global?
Alors, le dossier Maury Ducrot, Maury Global,
voilà,
du nom des deux structures qui successivement ont exploité la même entreprise jusqu'à sa faillite. C'est l'une des plus grandes catastrophes sociales des 50 dernières années.
Tout à fait.
Voilà. C'est 5000 licenciements, mais secs. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, on va reclasser. Non, c'est 5000 personnes qui perdent leur emploi.
Du jour au lendemain.
Et, absolument. Et qui, de surcroît, sont licenciées dans les pires conditions, puisque à chaque fois, c'est à l'occasion d'une liquidation judiciaire, d'une faillite, que les salariés perdent leur travail. Et donc, par définition, quand on est licencié dans une société qui est liquidée, qui donc n'a pas de moyens, voilà, qui est en faillite, qui n'a plus de ressources, ben on perçoit presque
rien du tout.
Rien, aucun accompagnement sérieux. Les indemnités de licenciement sont évidemment au ras des pâquerettes. Enfin, voilà. Donc, c'est un désastre à la fois collectif et individuel. Il se présente dans un contexte assez incroyable. Parce que, à l'origine, l'entreprise, elle appartient à DHL. Et DHL va céder cette entreprise à un repreneur qui s'appelle Arcole, Caravel Arcole. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est les deux structures qui, ensemble, vont reprendre cette exploitation auprès de DHL, et ce contrat de vente de la boîte par DHL à Arcole est un contrat dans lequel le vendeur paye l'acheteur.
Pour racheter cette entreprise. C'est voilà. Hallucinant.
Oui.
Déjà.
C'est une manière de faire qui n'est pas si rare que ça, c'est d'ailleurs un dispositif qui porte un nom chez les spécialistes de la finance, on appelle ça une vente à prix négatif. Et voilà, évidemment, quand on regarde ça de près et qu'on découvre soudain que le vendeur donne des centaines de millions d'euros, et là c'est vraiment des centaines de millions d'euros, à l'acheteur pour que l'entreprise soit vendue à cet acheteur, avec évidemment les salariés dedans, on est un peu surpris. Si vous allez, je sais pas, dans n'importe quel commerce, et que le vendeur vous dit, écoutez, moi, voilà, je vous propose de prendre ce produit, d'acheter ce produit, et vous savez quoi, je vais vous donner
de l'argent
une somme considérable pour que vous acceptiez de l'acheter. Vous allez vous interroger sur quel est exactement l'objectif.
Et quel est le modèle économique,
de
surtout.
De l'opération, absolument. Quelle est la finalité poursuivie, hein? Bon. Pour moi, et c'est ce que nous avons cherché à démontrer, et que nous continuons à tenter de démontrer dans plusieurs procédures, parce que, bon, il y a encore des actions en cours, dans cette affaire qui a plus de 10 ans.
Oui.
Voilà. C'est que l'objectif, justement, de cette vente, c'était de permettre à DHL de se séparer de milliers de salariés sans avoir à les licencier lui-même. Vous voyez, parce que, grâce à cette opération, les salariés qui travaillaient dans l'entreprise cédée sont sortis du groupe DHL et sont entrés dans une nouvelle structure qui, à la fin, a fait faillite. Et les salariés qui travaillaient dans cette structure, anciennement DHL en tout cas, pour certains, pour la plupart, ont été licenciés par un liquidateur judiciaire.
Voilà.
Et ce liquidateur judiciaire, il leur a versé des indemnités au ras des pâquerettes, extrêmement faibles, mais des indemnités qui étaient financées par
le rachat.
Non, par une assurance. C'est ça que ça fonctionne. C'est comme ça que, finalement, l'opération se révèle être tout à fait rentable.
Pour DHL.
Puisque on donne de l'argent pour que l'exploitation soit reprise. Cet argent, il va servir en partie à maintenir l'activité à flot. Parce qu'évidemment, la structure qui est ainsi cédée est une structure qui ne fait pas de profit. C'est une structure qui va mal et dont le grand groupe là, qui s'en débarrasse parce que, justement, ce n'est plus rentable.
Mais il faut quand même que cette exploitation, une fois transférée, ne s'écroule pas immédiatement. Hein, parce que si elle s'écroulait immédiatement, le poteau rose serait énorme.
Découvert.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'on donne suffisamment de sous pour que ça ne s'écroule pas tout de suite, suffisamment de sous pour que le repreneur, qui lui ne risque pas de gagner de l'argent avec cette activité qui, comme on vient de le souligner, totalement déficitaire, pour que lui puisse se payer, il faut qu'il puisse quand même lui aussi
sa commission
sortir quelques profits de la démarche, donc lui, il est payé, et in fine, donc à la fin du parcours, l'entreprise s'effondre, mais c'est programmé comme ça. Mmh. Et une fois qu'elle s'est effondrée, elle est placée en liquidation judiciaire, les salariés sont licenciés par le liquidateur, donc à la fois le groupe qui a vendu l'activité au départ, il est débarrassé de tous
les tracas,
emmerdements
administratifs.
Que, évidemment, un licenciement collectif de plusieurs milliers de salariés peut entraîner quand vous avez en plus un certain nombre d'organisations syndicales qui sont susceptibles de se mettre en colère. Tout ça, vous voyez, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est des contraintes qu'ils ne veulent pas assumer. Donc voilà, l'opération leur permet aussi de se soustraire à ces difficultés-là. Et le repreneur, celui hein, qui a joué le jeu et qui a fait semblant de vouloir poursuivre l'activité, bah lui aussi, il est libéré de cette phase un peu compliquée et qui peut éventuellement conduire à des confrontations, puisque le navire qui est en train de couler est confié à un liquidateur judiciaire. C'est le liquidateur judiciaire
qui fait le sale boulot.
Voilà, charge de l'ensemble de la phase douloureuse. Alors oui, c'est un peu compliqué tout ça. Faut digérer ces informations, mais c'est normal. C'est des opérations qui sont montées de façon extrêmement sophistiquée,
via
qui drainent des centaines de millions d'euros, qui détruisent des milliers et des milliers et des milliers de vies. Tout ça est en plus préparé pendant des années, donc on a beaucoup schématisé. Mmh. Mais c'est pas très compliqué de comprendre. Vous voyez que quand vous avez une vente où c'est le vendeur qui paye l'acheteur, il y a quelque part, pour le vendeur, un autre profit que de gagner de l'argent au moment de la vente. S'il donne de l'argent à l'acheteur, c'est parce que l'acheteur va lui rendre un service. Mmh. Et que ce service,
il faut
que les gens l'ont compris, c'est de licencier à la place du vendeur.
Et donc vous intervenez,
oui.
Votre cabinet,
mmh.
Et vous mettez en pièce ce scénario.
Oui.
Et aux victoires, je vous laisse dire ce que vous avez obtenu pour les salariés.
Alors, il faut être tout à fait précis. On a gagné, mais on n'a pas tout gagné. Hein. On n'a pas tout gagné. On a gagné
mais vous avez
que le licenciement
voilà.
De la majorité des salariés a été reconnu comme illégal.
Mm.
Bon, ça...
Et ça, c'était pas gagné. Hein.
Ça, c'était pas gagné. Ça, c'est clair que ça n'était pas gagné. Bon. Mais nous sommes encore en procès sur le caractère frauduleux. Sur le caractère purement frauduleux, nous sommes encore en train de nous battre.
Mmh.
Parce que, figurez-vous, aussi incroyable que ça puisse paraître, cette opération d'externalisation des licenciements par laquelle un grand groupe va, comme je l'expliquais tout à l'heure, confier le licenciement, la restructuration à des forces, on va dire, recrutées pour les besoins de cette démarche, cette opération n'est pas nécessairement regardée comme illégale. Il y a de nombreux commentaires, etc., de gens qui écrivent, qui sont probablement d'ailleurs récompensés pour ça, afin de soutenir que, bon an, mal an, tout ça, c'est quand même assez commode.
Bon. Alors, l'État même a versé un prêt de 17,5 millions d'euros. Mmh. C'est incroyable.
Mmh. Alors après, bon, maintenant, moi, je vous savez...
dans cette opération.
Dans les batailles que je mène, il y a souvent des leurres pour tenter de détourner l'action de son véritable objectif. Et pour moi, le véritable objectif, c'est de taper le capital. de prendre les forces du capital qui sont les véritables responsables, c'est eux qui organisent, c'est eux qui empactent, c'est eux
qui sont
les
à la manœuvre,
patrons,
oui, tout à fait,
de l'opération. Et quand on est lancé dans une bataille à leur encontre, évidemment, il y a beaucoup d'occasions de se laisser détourner, vous voyez, comme par exemple de penser que le gouvernement à l'époque, que ce soit Jospin ou ses ministres, il y avait Montebourg aussi qui était assez impliqué dans tout ça, étaient les premières cibles qu'il fallait viser parce que il prétendait être aux manettes. Et le paradoxe ici, c'est que vous avez un gouvernement qui en réalité ne tient rien du tout, qui ne tient rien du tout, mais qui prétend être aux manettes, voilà, parce que évidemment il a besoin de continuer à alimenter ce mythe qui est que le gouvernement, face aux grands enjeux sociaux, a le pouvoir et décide d'ailleurs d'intervenir pour aller soit favoriser les salariés dans leurs conditions de licenciement, soit même tenter d'éviter leur licenciement. Toute cette mythologie, vous voyez, toute cette explication qu'on nous resserre à chaque fois qu'il y a une grande restructuration, c'est totalement bidon. C'est totalement bidon. Le gouvernement, en réalité, alors, dans la plupart des cas, il n'a pas du tout l'intention d'intervenir sérieusement, et quand bien même, parce qu'en réalité, il est tout à fait d'accord avec ce que font les forces du capital, et voilà, d'ailleurs, il mène une politique
capitaliste,
par ailleurs, qui est totalement au service de leur démarche. Donc, pourquoi tout d'un coup, lorsqu'il y a une catastrophe sociale visible et médiatisée, changerait-il de position et se mettrait-il du côté des travailleurs? Enfin, je veux dire, ce serait schizophrénique, et de toute façon, ça n'a jamais lieu. Donc, de toute façon, il ne le fait pas, et quand bien même il voudrait le faire, il n'a pas aujourd'hui
les moyens
dans son arsenal, en tout cas, il a décidé de se priver des outils nécessaires pour le faire. Donc, vous voyez, ce que je veux en réalité souligner, c'est que j'ai eu dans cette bataille Maurice Ducrot, Maurice Global, à maintes occasions, la tentation même, hein, de me tourner vers d'autres que les grandes structures capitalistes qui ont organisé l'ensemble du processus. De me tourner vers d'autres, par exemple le gouvernement de l'époque, ou les gouvernements successifs, hein, qui par la suite ont parfaitement rempli leur fonction pour poursuivre la gestion de cette catastrophe en continuant à prétendre qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement, etc. Hein? Donc, de les prendre comme cible pour leur faire porter la responsabilité principale. Et, alors, évidemment, on peut en discuter, mais je crois pas que c'est ça qu'il faille faire.
Non.
Parce que ils ont une responsabilité politique. Ils ont une responsabilité politique qui est lourde. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment reprocher à un gouvernement social-démocrate de soutenir, en fin de compte, les forces du capital? On peut lui reprocher, mais... Il ne faut pas s'en étonner. Voilà, voilà. C'est quand même, depuis que la social-démocratie existe, c'est quand même l'une de ses missions historiques, hein, que de venir au soutien du grand capital. Et puis surtout, ça empêche
de
s'attaquer directement à ceux qui ont pris les décisions, qui ont financé l'opération et qui sont donc, encore une fois, les véritables responsables, et pas seulement juridiquement. Je veux dire, juridiquement, évidemment, moi je suis avocat, je fais des procès, etc. Donc je fais usage des règles qui sont à ma disposition pour tenter de les faire condamner. Mais c'est eux qui, pour gagner des milliards supplémentaires, ont décidé de mettre 5000 personnes à la rue.
Voilà. Via des montages dans les pays offshore. Donc on ne parlera jamais assez de l'évasion fiscale et de tous ces problèmes-là auxquels vous vous êtes heurté, parce qu'il y a le secret bancaire, le secret judiciaire et le secret politique qui entoure ces territoires.
Alors, je m'y heurte assez régulièrement. Ce n'est pas insurmontable. Hein. On peut obtenir les informations.
Oui, mais ça retarde.
Mais en vérité, si vous voulez, lorsqu'il y a de ce qu'on appelle pudiquement de l'évasion fiscale, hein, En vrai, c'est souvent des transferts d'argent qui sont parfaitement autorisés
oui.
par
la législation.
La législation fiscale.
Parce que hein? C'est du moment que ça reste de l'optimisation, dans la zone grise de l'optimisation fiscale, c'est autorisé. Et le fisc n'y peut rien.
Même pas qu'il n'y peut rien, c'est que...
Ah si, il y a des agents du fisc qui aimeraient pouvoir taxer.
Il y en a des fonctionnaires du fisc qui, eux, souhaiteraient effectivement même que eux, la législation fiscale soit différente. Il y en a plein, ça c'est clair.
Même eux n'y peuvent rien.
Mais ce n'est pas qu'ils n'y peuvent rien, c'est que le texte, même enfin,
les
en
textes.
Grande partie, hein, le Code général des impôts,
voilà. le leur interdit.
Dans son ensemble, hein, c'est des règles qui permettent aux grandes entreprises de mettre leurs profits à l'abri de l'impôt. Voilà.
Tout à fait. Et donc elles font que ça. D'ailleurs, des entreprises qui sont obligées de payer des impôts, c'est que ça veut dire qu'elles ont des juristes et des comptables mauvais. C'est leur critère. Voilà. Donc,
absolument.
Nous allons faire une pause musicale, oui. choisie par Ken Dong, notre technicien aujourd'hui. Et nous allons revenir ensuite sur le dossier Bolloré.
Avec plaisir. Touch me, baby, back, and I go. The way I love is just the way I love. Come on, and be the one they get all alive. Touch me, baby, oh, it feels so good. Sometimes I think I wanna, but I don't wanna whip it much up at all. Touch me, baby, back, and I love you. The way I love is just the way I love. Come on and be the one they get all. Touch me, baby, oh, it feels so good. Sometimes I think I wanna, but I don't wanna with it, but you wanna.
Chers auditeurs de Pod Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, nous sommes en entretien avec un avocat d'exception, Maître Fiodor Rylov, et nous allons aborder le deuxième dossier, celui des plantations Bolloré et des 145 Camerounais qui ont réussi à faire saisir la marque de l'entreprise qu'ils combattent, à savoir la marque Socfin. Alors, est-ce que vous pouvez présenter ce dossier, Maître Riloff, à mes auditeurs?
Alors,
c'est un dossier complexe.
C'est un dossier, effectivement, qui est assez complexe, d'un point de vue juridique. Hein. Mmh. Maintenant, voilà, dans les faits,
c'est très simple.
Qui arrive aux différents fermiers camerounais que je défends, c'est assez simple. On leur a pris une grande partie de ce qui leur permet de cultiver, de vivre tout simplement. Voilà,
c'est ce qu'on appelle l'accaparement des terres.
C'est de l'accaparement des terres en partie, mais même plus largement. C'est une situation dans laquelle vous avez tout un écosystème, en vérité,
oui. Hein,
qui est totalement détruit. Mmh.
C'est une catastrophe économique, environnementale et sociétale.
Absolument. Voilà. Et donc, ça se passe au Cameroun, ça se passe à côté de Kribi, au Cameroun.
Dans le Nord.
Absolument. Dans une zone qui a été complètement transformée par
les plantations
à huile. En plantation d'huile de palme.
Voilà.
Voilà. Et donc, toutes les communautés qui vivent à proximité de cette zone ou qui vivaient dans cet espace qui a été transformé en plantation d'huile de palme, ont vu leur existence économique, sociale, religieuse...
Bafouée.
Pour le moins, bafouée, oui. Voilà. Moi, j'ai été... sollicité par certains d'entre eux qui sont passés par l'intermédiaire d'une ONG camerounaise. Hein. Mm-hmm. Nous avons engagé un procès contre, alors, à la fois Socfin et Bolloré sur le fondement d'une nouvelle législation qui a été adoptée en 2017 et qui prévoit une obligation de vigilance à la charge des grandes multinationales françaises pour qu'elles soient contraintes de vérifier, de contrôler le comportement de leurs filiales, en particulier dans les pays où
du sud.
Elles ont évidemment l'habitude de pouvoir manœuvrer sans aucune surveillance et sans aucun frein. Et cette obligation donc de vérifier comment les filiales se comportent est censée permettre une sorte de police de leur manière de produire, de leur manière d'exploiter. Et cela est supposé réduire le nombre d'atteintes aux droits humains, le nombre d'atteintes aux droits environnementaux, etc. Bon.
C'est la loi Sapin 2.
C'est dans le cadre de la loi Sapin 2 que ça a été
voté.
Adopté à l'Assemblée nationale. Voilà. Sur le papier, c'est extrêmement impressionnant. Ça donne vraiment le sentiment que on a tout d'un coup décidé d'adopter une réglementation de l'activité des multinationales pour que elles ne soient plus en mesure de faire n'importe quoi lorsque les profits le commandent, pour que même mieux, elles soient sanctionnées dans les cas où elles porteraient atteinte aux droits humains, aux droits fondamentaux, comme on dit, hein, aux libertés fondamentales. Bon, vous sentez même à ma voix que j'ai un peu du mal
à
faire cette explication. Voilà.
Vous avez du mal à y croire, moi aussi.
Parce que,
et pourtant, quand elle a été votée en 2017, c'était un combat vieux de 20
ans.
Oui,
c'est un beau combat.
En tant qu'ONG, dans une ONG militante, je peux vous dire qu'on l'attendait, cette loi.
Oui.
Quand on a vu que Sapin la porterait, on s'est dit, oulala, qu'est-ce que ça va donner? Et quand on l'a vu voter, on s'est dit, aïe.
Oui, bien sûr. Non, mais après,
Bon, on l'a.
On ne peut pas avoir.
Il faut des rapports
des
de force.
Des miracles tout d'un coup.
Non, voilà, il faut des rapports de force.
Voilà, c'est pas ici que tout d'un coup on va se mettre à.
C'est à l'Église qu'on croit mettre.
De force transcendantale.
Non, voilà. Non, c'est à l'Église qu'on croit mettre.
Voilà, nous procure soudain des solutions, des recettes magiques. Donc, une loi comme celle-là, il faut quand même bien mesurer que si elle a été adoptée, c'est parce que ceux qui ont décidé qu'elle serait votée pensaient qu'elle était totalement inoffensive et que jamais personne ne pourrait s'en servir pour réellement mettre de la pression, exercer une contrainte sur les grandes multinationales et les manières dont elles font fonctionner leurs filiales, où qu'elles soient dans le monde, l'objectif étant toujours et de façon absolument obstinée, le profit le plus élevé possible, quel qu'en soit le coût humain et quel qu'en soit le coût environnemental. Voilà.
Donc, merci maître de le rappeler.
Voilà, je le rappelle. Voilà. Sauf que des fois, il y a
un caillou dans la chaussure.
Un certain nombre de dispositions, voilà, dans des textes comme ça qui sont supposés servir de paravent, quoi. Hein. Mm-hmm. Il y a des dispositions qui permettent quand même de lancer un certain nombre d'actions qui peuvent gêner les grandes puissances du capital. Étant précisé que ces dispositions, si elles existent dans le texte tel qu'il est voté, c'est parce que, bah, encore une fois, les auteurs du texte et surtout ceux qui décident de l'adopter pensent que ces dispositions sont décoratives, ne mesurent pas comment on peut effectivement s'en servir pour tenter de créer la surprise, on va dire,
oui. Hein,
et de faire que cette loi, ce dispositif législatif ne soit pas simplement décoratif.
Alors, ils n'ont pas imaginé que vous et d'autres avocats, on parlera d'autres procédures,
ouais.
Allez vous en emparer.
Alors, écoutez, bon.
Parce que sinon, ils auraient fait plus attention.
Ils n'ont pas imaginé, en réalité. C'est quoi ? Bon. Parce que cette loi, elle a, pour l'essentiel, comme objectif de contraindre les multinationales à publier une revue avec une belle
sur papier glacé, ouais.
Voilà, avec plein de photos extrêmement bien léchées. Et cette revue est censée exposer toutes les mesures que la multinationale promet de mettre en œuvre pour que les êtres humains sur cette planète ne souffrent pas de ces activités. Bon, donc, et tant que les
rapports d'activité
multinationales ont comme simple obligation à partir de ce texte d'aller chercher des rédacteurs talentueux qui vont faire le récit des formidables mesures que la multinationale promet de prendre, tant que ça ne les contraint qu'à recruter de beaux graphistes, voilà, qui vont leur faire une belle présentation visuelle, c'est, vous voyez, ça ne mange pas de pain. Même en réalité, c'est plutôt pas mal d'un point de vue communication, puisque les multinationales peuvent ainsi prétendre qu'elles ont une préoccupation sur le terrain écologique, qu'elles ont une action
humaine
vis-à-vis des enjeux sociaux et des enjeux humains, et que, on peut quand même difficilement les taxer d'être de méchants capitalistes qui ne pensent qu'au profit, puisque, preuve en est, vous n'avez qu'à voir, ça fait 300 pages ma revue, j'y expose l'ensemble des démarches que j'accomplis quotidiennement pour améliorer le sort de l'humanité. Bon, et tant que c'est cette farce-là qui découle de la loi, ça ne gêne pas grand monde. Bon. En revanche, il y a un article, en vérité, dans la loi, qui prévoit que les victimes, peuvent
se rebiffer
et décider d'engager une action pour reprocher à la société mère de ne pas avoir bien fait quoi ? De ne pas avoir bien fait application des belles mesures qui sont affichées dans sa revue qu'on appelle donc le rapport de vigilance ou voilà,
retour
le
à l'envoyeur.
Plan de vigilance.
Bon. Retour à l'envoyeur.
Alors pourquoi il y avait cette disposition et pourquoi les forces qui ont finalement adopté le texte ont estimé que cette disposition était pas dangereuse, en tout cas ne menaçait pas sérieusement les multinationales. Pour une raison simple, c'est que pour que cet article-là puisse s'appliquer, il faut que les victimes fassent elles-mêmes
la
un
démarche.
Procès.
Ouais.
Ça ne peut pas être une ONG
non.
qui a comme activité, par exemple,
le
de réfléchir le dimanche après-midi à comment on va faire un procès. Voilà, donc on est rive gauche et puis on a toutes ces multinationales qui sont à la défense avec leurs avocats qui sont rive droite. Mm-hmm. Et entre donc, les ONG rive gauche et les avocats rive droite, c'est la confrontation du dimanche. Et tout ça, évidemment, en toile de fond, on a, vous voyez, vous avez la défense avec les tours et tout. Et puis au sommet de la plus haute des tours, il y a le
PDG.
Grand dirigeant méchant PDG. Mm-hmm. Qui regarde ça avec un grand sourire, disons les enfants, alors c'est, bah, c'est dimanche, mais alors pas trop tard, parce que ce soir, hein, je vais dîner. Donc ça, oui, c'est quand même... Non, mais,
oui, voilà, c'est vrai.
C'est comme
le pire,
ça,
c'est
quand
que
même
c'est
que
vrai.
Souvent ça se passe.
Sachant qu'à la défense, c'est un quart du PIB de la France.
Ce que tous ces protagonistes n'imaginaient pas, c'est que les victimes qui sont, par exemple... Allez, pardon, mais...
145 paysans camerounais.
On va dire comme ça. Ils sont au fin fond de la jungle.
Hein?
Ils sont dans des endroits pour y aller, c'est 5 heures afin de franchir 30 kilomètres.
Oui.
Hein? Et quand eux se déplacent, parce que là, moi, je vous parle de quand moi je vais les voir, je prends, j'ai des amis
voiture.
Là-bas qui m'accompagnent avec un gros 4x4. Et de toute façon, tu peux pas avancer si t'as pas de 4x4. En tout cas, pas en véhicule. Bon. Et on met 4 à 5 heures pour arriver à destination. Mais quand les victimes, là, en question, elles se déplacent.
Elles marchent
une journée entière avant d'arriver dans une zone où il y a de l'Internet.
Voilà. Voyez
donc, c'est ça, là. Et donc, comment voulez-vous que ceux qui ont accepté de faire voter cette loi puissent imaginer que les victimes qui vivent dans ce contexte-là, dans ces conditions-là, puissent s'organiser de telle sorte à ce que elles lancent en leur nom propre, chaque victime individuellement,
oui.
une action en justice en France devant un tribunal français avec un avocat français, sachant que de toute façon, ça va durer en plus plusieurs années. Pour eux, ça, c'était de la science-fiction. Ça ne pouvait pas avoir lieu, ça ne pouvait pas exister. Et donc, ils ont dit, allez, on va se mettre la petite
caution
là, dans le texte et jamais ça ne se produira. Et vous savez quoi ? La réalité, c'est que pendant très longtemps, ils ont eu mais complètement raison. Complètement raison, parce que toutes les actions menées devant les juridictions françaises, y compris celles qui ont fait couler beaucoup d'encre, où il y avait plein de commentaires sophistiqués sur la compétence du tribunal, sur voilà,
on connaît.
Tout ça.
Tous ceux qui luttent contre la France-Afrique comme moi connaissent.
Tout ça n'avait, toutes ces procédures n'avaient qu'un seul et unique enjeu.
Retarder.
C'était de contraindre la multinationale à augmenter son plan de vigilance, donc sa belle revue de quelques pages supplémentaires.
Voilà.
Et ce qui était absolument croustillant, c'est que les multinationales faisaient, et elles sont quand même bonnes comédiennes, il faut leur reconnaître ce talent.
C'est vrai.
Elles faisaient semblant merveilleusement bien d'être extrêmement gênées par ces procès qui allaient, si jamais la démarche des ONG était couronnée de succès, les contraindre à augmenter leur plan de vigilance de 10 pages supplémentaires où elles allaient devoir promettre encore et encore de faire des miracles là où leurs filiales sont installées et détruisent des millions de vies et évidemment la nature tout autant. Donc, vous voyez, c'est quand tout d'un coup, vous avez des victimes qui viennent et qui disent « Ah, là, nous, voilà, on va s'appuyer sur un texte. » Et ce texte-là, c'est pas simplement pour vous faire condamner à augmenter votre belle revue de quelques pages supplémentaires. En réalité, votre belle revue, vous savez, nous, on l'a lue.
Et on s'en torche le cul avec.
Et non seulement on fait ça, mais de toute façon, votre obligation de vigilance que vous prétendez satisfaire, vous la violez au quotidien, parce que ce que nous subissons du fait de vos filiales, c'est un désastre permanent. Mmh. Et voilà la réalité.
C'est carrément un crime contre l'humanité.
Des dommages que nous subissons tous les jours, et qui, évidemment, sont la conséquence d'une exploitation de la nature, d'une exploitation des êtres humains par vos filiales, qui est complètement inacceptable et qui, en réalité, n'est rien d'autre que ce que vous avez décidé que vos filiales feraient.
Voilà. Oui.
Et donc, bon, donc on est dans, tout d'un coup dans cette configuration avec des victimes qui disent « Nous, on est ici pour vous faire condamner à ce que votre responsabilité soit engagée et à ce qu'un certain nombre de mesures de remise en état et d'indemnisation soient mises à votre charge, et cela de façon très concrète. C'est, tout d'un coup, il y a un vrai procès, si vous voulez.
Oui.
Hein? Alors moi, je ne vais pas faire croire à quiconque qu'on va changer le monde à coup de procès, hein. D'accord ?
Non.
Ça, c'est clair et net. Mais, quand il y a un vrai procès,
le
celui
rapport de force
qui
change.
Est mis en cause, il risque sérieusement quelque chose. Vous voyez, pas simplement où je vais devoir republier ma revue sur mes prétendues mesures en faveur de l'écologie ou en faveur du respect des droits de l'homme. Non, là, vous avez un vrai procès, évidemment. Vous avez détruit ma vie et vous allez devoir en répondre. Et c'est ça qui tout d'un coup est arrivé. Alors avec les
Sokfa et Bolloré,
les Camerounais,
c'est ce qui va arriver avec les Cambodgiens
et aussi avec les avec les Bounongs au Cambodge,
voilà,
qui de la même manière ont décidé d'engager une action. Alors faut peut-être quand même aussi ajouter que je peux d'une certaine façon comprendre comment ceux qui, en 2017, ont adopté le texte, ont pu considérer que ce que nous sommes en train de faire avec les fermiers camerounais, avec les fermiers cambodgiens, ne pouvait pas arriver.
Mmh. Bon.
Parce que, prenons les Cambodgiens, parce que les Cambodgiens, ils parlent pas français.
Ouais.
Ils écrivent en khmer.
Mmh.
Et donc, si vous voulez, la difficulté que constitue la récolte des documents nécessaires pour que chaque plaignant puisse faire un procès en son propre nom. Mmh. Et on ne peut pas dire « Oh, moi, je représente 300, 400... » C'est chaque personne qui doit
faire le travail,
venir avec les documents qui le concernent afin de monter un dossier individuel.
Mmh.
Et ce n'est qu'à cette condition-là que son dossier est recevable. Mmh. Vous voyez ? Et donc, les Cambodgiens, bon, l'immense majorité d'entre eux, ils n'ont pas de pièce d'identité.
Mmh.
Ils n'ont pas de pièce d'identité.
Ils sortent d'un pays où il y a eu un génocide.
Absolument. Les documents que certains ont sont des documents qui ont été rédigés par des fonctionnaires khmers. Et les fermiers que je représente au Cambodge, ce sont des Bounongs, c'est-à-dire c'est une minorité qui ne parle, enfin la plupart, se débrouillent quand même en khmer. Mmh. Mais leur langue, c'est le bounong.
Mmh.
Et donc, quand ils vont faire des papiers officiels, ils s'adressent à des fonctionnaires qui ne parlent pas le bounong.
Ouais.
Donc, ça crée une complication
supplémentaire.
Technique, concrète, qui est...
Et c'est une minorité opprimée par les khmers.
Alors, oui. Mmh. Alors, il faut leur demander. Moi, je ne vais pas...
Ouais.
Ce qu'il dénonce surtout, c'est la manière dont les grandes multinationales sont venues envahir leurs terres ancestrales et les ont privées
de
tout ce qui est important dans leur vie. Quoi.
Voilà.
Voilà. Donc c'est surtout ça qu'il dénonce. Et oui, quand nous sommes arrivés pour la première fois avec les Bounongs devant le tribunal de Nanterre pour lancer la procédure, au nom de, ils étaient au départ une quarantaine. La première, évidemment, difficulté, ça a été que, mais ils n'ont pas de papier, mais attendez, mais ces papiers qui sont produits pour constituer prétendument une pièce d'identité, mais c'est pas vraiment une pièce d'identité, mais en plus c'est écrit en khmer, mais attendez, je comprends pas, puisque sur tel papier, monsieur s'appelle ainsi, alors que sur la pièce qui est produite et qui est censée être sa pièce d'identité, son patronyme est écrit autrement, et complètement autrement. Tout ça parce que les fonctionnaires officiels, là-bas, quand ils entendent le nom du plaignant, ils traduisent effectivement phonétiquement en khmer et en fonction des fonctionnaires. Ça s'écrit avec... je ne pratique pas malheureusement le khmer, mais évidemment, les lettres sont souvent très différentes. Et donc, quand tout ça est retraduit en français, ça donne deux patronymes extrêmement différents. Et ces difficultés-là, elles sont... majeures. Mmh. Elles sont majeures et on pense que des gens qui sont comme ça au fin fond d'une zone où il n'y a pas Internet, jamais ils vont trouver les ressources pour surmonter ces difficultés. Sauf que c'est là qu'ils se plantent, vous voyez. C'est là qu'ils se plantent. Et pourquoi ?
Ils oublient la détermination des gens.
Ils oublient, ils les sous-estiment. Ils sous-estiment parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas immédiatement sous la main l'ensemble de la documentation, qu'on n'a pas une intelligence, à la fois individuelle et collective, qui permet, peu à peu, de surmonter tous ces obstacles, de rassembler les éléments et de construire un dossier qui peut être couronné de succès. Vous avez vu, vous l'évoquiez tout à l'heure, que la Cour d'appel de Versailles a accordé un certain nombre de mesures importante aux paysans camerounais et que le tribunal de Nanterre a même condamné Socfin à payer des sommes assez
significatives. 10 000 euros par jour d'astreinte. Vous avez réussi à avoir ça.
Oui, alors je ne sais pas si je me souviens plus exactement
si.
C'était probablement...
C'était 10 000 euros par journée d'astreinte.
En tout cas, ça a fait au total 140 000 euros pour les fermiers.
Sachant que Socfin, n'ayant pas de compte bancaire en France, ils n'ont pas payé la somme. Et donc, du coup, vous avez décidé quelque chose d'inédit, saisir la marque à l'INPI.
Oui,
quand on a lu ça, c'est ça qui a fait que j'ai persuadé le groupe de vous inviter. Oui. J'ai dit, un avocat pareil...
Oui.
Bon, c'est
après,
pas possible.
Oui, faut avoir un peu d'expérience.
Génial. Il faut absolument qu'on vous ait dans notre émission et que vous expliquiez votre démarche. Parce que ça, c'était inédit. Vous rendez compte que la marque peut être vendue aux enchères par 145 paysans camerounais. Les gens de la loi Sapin avaient su ça, ils doivent être
couchés. C'est un peu mais là, effectivement, là où c'est intéressant, c'est que ça. En dépit de toutes les faiblesses, de tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur la démarche un peu creuse des uns et des autres, et notamment, je n'ai évidemment pas toutes dans un même sac, mais il y a beaucoup d'ONG qui non seulement se contentent de cette gestication pour... éventuellement par la voie judiciaire, obliger telle grande multinationale à améliorer son plan de vigilance en y mettant des mesures plus contraignantes ou plus généreuses, qui de toute façon ne sont jamais appliquées.
Elles sont cosmétiques.
Absolument, mais bon, tout ça. Oui, tout ça, ça occupe, ça donne le sentiment que
on est
à la pointe de la lutte en faveur des droits humains et de la défense de l'environnement. Donc, tout ça me... Bon, mais ce que je vois aussi, et je trouve ça assez insupportable en vérité, c'est que certaines structures. Pour moi, ont un comportement néocolonial. Hein. Parce qu'elles estiment que, quand même, faut pas exagérer, le fermier camerounais, là, au fin fond, il a 40 km de cribi, il n'y a pas Internet, il n'y a rien du tout, il ne sait pas à peine écrire, on va quand même pas lui demander, sérieusement penser qu'il est capable de
s'organiser pour mener lui-même un procès en France.
Non, attendez, il faut quand même
et
pas...
Et de convaincre Fiodor Roviev.
Et puis, il ne comprendra pas ce qui se passe. Tu comprends? Voilà. Et puis, on ne peut pas communiquer avec eux, c'est très compliqué, ils n'ont pas Internet. Voilà. Donc, il vaut mieux que ce soit nous.
Qui nous en occupons.
Ah bah tiens, c'est marrant, il n'y a que des tout bas. Il n'y a pas que des blancs. Pas
mal.
Voilà. Tout, et puis on vit tous au même endroit, à peu près dans le même périmètre, hein, et on va tous nous s'occuper. Voilà. Ben, puis après, on se retrouvera dans les mêmes restos, à peu près,
oui, hein,
pas très loin. Hein, mais on va s'occuper du sort des fermiers camerounais ou des fermiers cambodgiens, parce que on sait mieux faire, quoi.
Hein, voilà.
C'est quand même bon. Hein, on a le savoir, on a le truc. Bon, moi, ça m'insupporte. Vous voyez, ça m'insupporte, et ça m'insupporte d'autant plus que quand je me retrouve avec les voilà avec les fermiers camerounais ou avec les
Cambodgiens.
Les Cambodgiens et qu'on prépare ensemble, vous voyez, les offensives, les démarches, etc. J'ai tellement envie que ils aient la possibilité de leur faire fermer leur clapet, quoi. Vous voyez.
Merci parce de
que,
dire.
Mais oui, parce Ouf, que parce que
c'est dit.
Parce que ces gens sont
c'est
un exemple quoi. C'est ils ont une aptitude à s'organiser collectivement, une détermination. Même moi, franchement, il y a l'immense majorité de ceux avec lesquels je travaille dans ces actions. Ça a l'air d'être un peu comme ça, vous voyez, le gros, mais c'est une inspiration pour moi. Je me dis quand même, les gars, putain, ils sont solides, quoi. Franchement, oui. ils sont solides
et
sur
ils savent
tous
ce
les
qu'ils
terrains,
veulent.
Ils savent ce qu'ils veulent, ils sont prêts à se bagarrer, ils se découragent jamais, et on y va, quoi.
Oui.
Vous voyez, franchement...
ça fait du bien.
Ouais, ça fait bien, ouais.
Bon, et on va aborder le dernier dossier. Mmh. Il y avait prévu une pause musicale, mais on n'a pas le temps.
Ouais.
Si on veut aborder
ouais,
à fond le dernier dossier, Total
ouais.
Energy,
ouais.
mon groupe préféré,
ouais.
a signé en justice pour ses pollutions au Yémen.
Ouais.
Ah, ça fait du bien.
Mmh.
Total Energy. Alors, pour information, en 2017 est sorti un excellent ouvrage, De quoi Total est-elle la somme, de Alain Deneau, et il était épuisé. Donc, les personnes qui ont aidé Alain Deneau à l'écrire, dont je fais partie, ont persuadé l'éditeur d'en sortir une version remaniée, avec une nouvelle préface, et moins chère, parce qu'elle était à 23,90, un peu chère pour les jeunes. Elle n'est plus qu'à 14,90 pour les jeunes qui veulent vraiment s'informer sur une multinationale et perversion du droit. C'est le sous-titre de « Quoi Total est-elle la somme ?» Et vraiment, si vous voulez comprendre comment fonctionne Total et toutes les multinationales, les majors, il faut lire cet ouvrage. Quand
Absolument.
Nous sommes tombés sur le dossier du Yémen, on s'est dit, qu'est-ce que va faire cet avocat? Donc, je vous surveillais depuis un moment, et quand j'ai vu ce que vous avez fait devant Nanterre, j'étais soulagée pour vos clients. Mmh. Alors, vous allez nous présenter vos clients et le dossier, s'il vous plaît, Maître Ridoff.
Oui. Bon, ça ressemble furieusement
à
ce qui se passe au Cambodge ou au Cameroun. Hein.
C'est-à-dire qu'on
totale. On a ici une situation où c'est prétendument des défaillances des infrastructures de Total qui ont causé une catastrophe écologique et sanitaire.
Majeure. Dans un pays qui est en guerre et qui est la pire catastrophe humanitaire, le Yémen.
Absolument. Mais nous, ce qu'on va essayer de démontrer, en réalité, c'est que il n'y a rien d'accidentel là-dedans.
Non, voilà. C'est prémédité.
Que, en réalité... la manière dont Total exploitait les puits de pétrole hein, dans cette région du Yémen comportait des risques gigantesques et dont la réalisation était quasi certaine de pollution massive. Voilà. Et que Total ne pouvait pas ignorer que à terme, non seulement ces risques étaient absolument énormes, mais que statistiquement, c'était quasiment sûr
que la pollution
que ça allait se produire, quoi, que l'un des risques au moins allait se réaliser.
Et tous les risques se sont réalisés.
Et là, alors en plus, il y a eu une succession de réalisations de risques, c'est-à-dire qu'il y a eu une succession de pollutions, d'événements complètement incroyables qui ont engendré tour à tour, intervalles extrêmement réguliers et réduits des pollutions significatives, si bien que on peut plus cultiver,
on peut plus rien faire
de façon normale. En tout cas, le rendement des terres s'est écroulé, mais mandant. Les plaignants que je représente me disent que il y a eu une explosion de cancers, une explosion d'enfants naissant mal formés, etc. Mmh. Alors après, il faut évidemment établir le lien de causalité. Et ça va pas être une mince affaire. Mais voilà, il y a une situation absolument dramatique. Et là, on est au tout début de la démarche.
C'est-à-dire oui.
Je représente aujourd'hui à peu près 70, un peu plus, 70 plaignants. Et nous cherchons, pour commencer, à récupérer tous les documents que Total a en sa possession et qui permettent ensuite de reconstituer une photographie très précise de ce qui s'est passé et de l'ampleur de la catastrophe sur une période de près de 10 ans. Mais ça avance bien.
On crois la presse.
Vous
tresse des lauriers.
Moi, je vous le dis aussi.
Oui, voilà. On est
On avance bien. Et je pense que on va très prochainement obtenir les éléments documentaires, donc les éléments d'explication détaillée et technique de ce qui s'est passé. Et à partir du moment où on aura cette photographie détaillée, je suis absolument convaincu qu'on disposera de preuves accablantes.
Contre Total.
Vis-à-vis de Total.
Alors, il faut savoir que Total, il n'y a pas que vous qui êtes après Total.
Ah ben ça, j'espère bien que je suis.
Mais vous êtes
plusieurs.
Alors, j'ai oublié de dire que vous êtes un des plus grands avocats de France. D'ailleurs, on vous a cité.
J'ai pas si c'est un compliment, ça.
Si.
Ah, vous voulez dire en taille, taille.
En compétence.
1m90.
Voilà. Et donc, d'autres avocats, notamment dans les projets controversés de Tilenga et de EACOP, sont après Total. Et je pense qu'il y a une convergence dans les dossiers contre Total. Qui va et ça Alain Deneau, l'auteur du livre De quoi Total est-elle la somme, l'explique bien. Total est une
Moi je suis pour la convergence des luttes.
Voilà. Total est une multinationale qui se prétend française alors que en fait elle est détenue à majorité par des capitaux anglo-saxons. Donc elle prétend payer des impôts, faire des activités à l'étranger et explique pourquoi elle ne paye pas ou peu d'impôts en France. Mais c'est justifié. Elle fait exprès via les paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts. Donc tout est orchestré, tout est fait de façon limpide. Et quand on lit De quoi Total est-elle la somme, on a un paysage ravageur de la multinationale. Alain Deneau a passé 3 ans de sa vie aidé d'une 50aine de personnes pour écrire ses 2 ouvrages sur Total. Donc, ils sont en vente à Publico, la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement. Vous pouvez y aller par 3 métros, République, Fille du Calvaire ou Oberkampf. Et je vous recommande la lecture de cet ouvrage. Alain Deneau a laissé le plan de l'ouvrage en libre accès parce qu'il souhaitait que d'autres multinationales, notamment du pétrole, soient étudiées et qu'il y ait d'autres publications à travers le plan qu'il a fait pour Total, qui est un plan générique, en fait. Donc acte. C'est une incitation à prendre le relais de la lutte contre les multinationales. Parce que la lutte du 21e siècle, ce sera contre les multinationales. C'est elles qui nous menacent, parce qu'elles sont l'incarnation même du capital. Vous êtes d'accord avec moi, maître?
Complètement. Complètement. Mais ça fait longtemps que c'est elles qui sont à la tête de la société capitaliste. La tendance monopolistique des puissances capitalistes, c'est pas une inclination qui date d'hier. Donc non, il y a voilà. Mais c'est vrai que elles apparaissent aujourd'hui de manière tout à fait évidente, facialement, sur le devant de la scène, comme étant les structures qui dirigent le monde. Voilà.
Oui. Bien. Alors, Maître Arilov, vous avez d'autres dossiers? Est-ce que vous voulez en dire quelques mots pour inciter les auteurs, les auditeurs à suivre votre travail dans la presse, parce que c'est par la presse qu'on apprend que vous allez au secours grâce au droit social dont vous êtes un expert.
Non, mais écoutez, moi, j'ai juste suggestion à faire pour tous ceux qui se battent, vous voyez.
Oui.
C'est de d'abord continuer à se battre.
Ça, c'est clair.
Voilà. Et que c'est que par la lutte et par l'organisation collective de cette lutte qu'on peut espérer non seulement faire reculer le capitalisme, mais l'abolir. Voilà. Mmh. Mais précisément par rapport à l'expérience qui est la mienne, il faut faire flèche de tout bois et il faut considérer l'action en justice comme l'un des leviers de la lutte, qui est complètement en articulation complémentaire avec la bataille telle qu'on la mène habituellement quand on est militant, quand on est syndicaliste ou quand on est simplement en colère, quoi.
Vous voyez ? Oui.
Voilà. Le levier judiciaire, c'est un levier utile à partir du moment où, évidemment, il est maîtrisé par ceux qui luttent. Vous voyez, parce que moi, je parle beaucoup, je cherche à occuper l'espace sonore, vous voyez, mais il y a une chose que je considère être la seule vraie légitimité qui est la mienne. Je n'entreprends rien, rien n'est mis en œuvre sans que ceux qui m'ont donné mandat me donnent l'ordre de le faire. Mmh. Vous voyez ? Voilà. Et toutes les implications, les répercussions de l'action en justice doivent être mesurées, entérinées et par ceux qui luttent, donc ceux qui sont à l'origine, qui portent la démarche judiciaire, et ils doivent en avoir la maîtrise en permanence, justement pour pouvoir articuler l'action en justice et les batailles qu'ils mènent simultanément sur tous les terrains. Voilà, ça c'est quelque chose que j'avais envie de rajouter, parce que c'est important qu'on ne saucissonne pas l'action en justice, qui serait d'une certaine façon l'apanage de l'avocat, qui machin, le sachant, le technicien, etc., qui fait son truc et en plus, bon, il vient à la radio se vanter un peu. Vous voyez, non. L'action en justice, c'est un levier. Voilà. Comme la grève, vous voyez.
Oui.
La grève, c'est plus efficace quand même, quand elle est générale. Mais...
Merci, maître, voilà, de le rappeler. Ah, ça fait du bien de vous avoir à l'antenne, parce
merci
que vous rappelez.
Merci
vous...
de m'avoir invité.
Mais écoutez, merci d'être venu, maître Arilov. Donc, je rappelle que les dossiers à suivre que nous suivons pour nos auditeurs, c'est Total Énergie par rapport à la pollution au Yémen, mais aussi Total Énergie dans EAECOP et Tilenga. Vous avez les hashtags Tilenga et EAECOP sur les réseaux sociaux, si vous voulez en savoir plus. Le livre de Alain Deneau, De quoi Total est-elle la somme, publié chez Éco-Société et les rues de l'Échiquier. Vous avez les plantations Bolloré et Socfin. Et surtout, vous avez Maury Global, Maury...
Ducrot.
Ducrot, voilà. Alors, Exceptionnellement, je fais une annonce pour vous dire que Pas de quartier, qui est une émission quinzodromadaire, aura une diffusion ce vendredi de 16h à 17h30 parce que nous avons un dossier prioritaire et nous avons accepté de recevoir des gens qui luttent, justement, des salariés en grève, qui vont venir expliquer leur combat à l'antenne. Et donc, Pas de quartier sera là de 16h à 17h30. Je remercie le secrétariat de la radio de m'avoir libéré un créneau pour recevoir ces salariés en lutte. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'émission sur le podcast de Radio Libertaire. Je ne le dis pas suffisamment parce que souvent, j'ai pas le temps. Donc, vous étiez sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net. Nous avions comme invité Maître Fyodor Ilov pour expliquer donc ses combats. Ken Dong était mon technicien. Donc, Pas de quartier, c'est une émission du groupe Louise Michel. Je vous donne rendez-vous donc vendredi, exceptionnellement, de 16h à 17h30. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous et restez en lutte. Merci beaucoup.
Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues je vis la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, il y rue d'un gain, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, sur les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que j'étais sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi casse les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer du futur, l'angoisse, vous de la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Et moi, je joue le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. Moi, interdit le territoire, j'ai fait appel à la marche ou crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, car ici, ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes de toutes les Villeneuves. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes, y compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans les tenues de son fils numéro 1. Mais j'excuse les lésés si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi à Dieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage. Je vous fais serment devant le juge, tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer un sale tour, j'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai dit gamin. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie des câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse vous de la preuve. La rage.
Passe la machine sur ta psycho qui se devine. Ça vous prend dans le fond du feu, et puis ça monte, et c'est le feu. Attends que je t'ouvre la pente, accroche-moi, je prends la rampe. Le prolongement de mon bec quand tu l'avales, c'est cul sec. La mer en toi, c'est l'Atlantique, et je te traverse en musique. Allez, viens, 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 viens que je sorte mes habits. C'est l'heure où l'assassin jouit, et tu verras comment je cours mon navire dedans ta goule. Ça s'ouvre et ça fait va-et-vient, viens que je vienne où tu veux bien. Ça vous prend dans la cathédrale au moment où sente l'espoir. Te lave pas, t'es pur assez, je vous envoie tout mon passé. Viens que je vienne et qu'à toi colle cette ferveur que tu racoles. Ton électrique destiné se traîne à mes vis platinées. Je te parle comme on s'explique quand Mozart nous met en musique. Je t'ai prise sur le pavé comme une fleur de la marée, et je te prends dans ma comète avec ton ventre que je jette. Au Labrador, on dormira avec des rennes dans les bras. Ton coquillage, je le perce.
...89.4, Radio Libertaire, et nous sommes au grand soir du mardi, l'émission du groupe Libertaire La Rue. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'un livre important, Portrait du pauvre en habit de vaurien, de Michel Husson, aux éditions Sileps. Nous n'avons pas pu inviter l'auteur parce qu'il est malheureusement mort, voilà. Michel Husson était économiste et statisticien, il a consacré des années de recherche à ce livre. Alors, dans ce livre, il examine comment d'innombrables penseurs et scientifiques, en particulier britanniques, ont fait des pauvres urbains, générés par la révolution industrielle, une classe de sous-humains, quasi-criminels, une population de résidus, inexploitables par l'industrie naissante. Eugénisme, darwinisme social, malthusianisme, tout fut pensé pour rendre les misérables responsables de leurs conditions, pour condamner les dépenses sociales, censées soulager, là j'ouvre les guillemets, ceux qui ne sont rien, pour justifier l'exploitation de la masse par quelques-uns. Toutes ces théories sont reprises aujourd'hui dans des termes quasi identiques.
Dans la première partie de son ouvrage, Michel Husson nous explique ce qu'est à l'origine de ce travail. Et donc, à l'origine de ce travail, Michel Husson s'est posé une question. Comment une société peut-elle tolérer de mesurer l'écart...
Comment une société peut-elle tolérer de mettre à l'écart une partie de la population qualifiée de surnuméraire ?
Voilà, pardon. Il s'est intéressé en effet à la théorie de l'évolution de Darwin et à ses avatars, les différentes formes de ce qu'on appelle le darwinisme social. Que dit Darwin dans son ouvrage « L'origine des espèces » qui a été publié en 1859 ? Il dit que les organismes vivants sont en perpétuelle transformation et subissent au fil du temps et des générations des modifications morphologiques comme génétiques, grâce notamment au phénomène de sélection naturelle, ou l'idée que dans la nature, seuls les plus aptes survivent et se reproduisent davantage que les autres. Darwin parle des organismes vivants, mais il se garde bien de transposer ses théories à l'espèce humaine. Et évidemment, c'est extrêmement important, nous y reviendrons.
Alors, le darwinisme social, c'est donc l'application à la société humaine de la théorie de la sélection naturelle. Alors, quand apparaît cette doctrine du darwinisme social? Alors, selon Husson, elle apparaît au XIXe siècle, notamment dans les écrits du philosophe et sociologue anglais Herbert Spencer, qui est contemporain de Darwin. Spencer voit dans l'idée de sélection naturelle de Darwin la clé qui permet de comprendre le développement de la civilisation par opposition à la barbarie. Le mécanisme de la sélection naturelle décrit par Darwin serait totalement transposable au corps social. Pour les adeptes du darwinisme social, les inégalités, les guerres de conquête sont nécessaires parce qu'elles sont une mise en application de la théorie de la sélection naturelle.